Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Tel un étudiant dans un cours d'art dramatique au secondaire, j'ai amené un accessoire, Marc-André, cette semaine.
Mon Dieu, j'ai malheureusement eu des cours d'art dramatique, donc ça me rappelle tous des mauvais souvenirs.
Moi aussi.
C'est quoi ton accessoire, Germain?
C'est une boule de cristal.
Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal, Germain?
La voiture de demain.
La voiture de demain? Genre demain-demain ou demain?
Après-demain même.
Genre après-après-demain.
Après-après-demain.
Puis on va faire quoi avec ce boule de cristal-là, donc?
Ben, on va voir à quoi ressemble la voiture de demain. Et on va surtout y aller de nos prédictions et de nos volontés sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la voiture de demain.
Écoute, c'est si bien dit, je ne vois pas ce que je peux ajouter à part... est-ce qu'on part?
On part!
Et on part!
Allez! Si je te tendais le bâton de la parole, Marc-André, pour savoir qu'est-ce que tu veux d'abord et surtout qu'est-ce que tu ne veux pas dans la voiture de demain?
Ben, je te dirais que la première chose qu'il faut considérer, c'est que demain, il faut définir c'est quand. Je pense que à moyen terme, c'est-à-dire les 5 prochaines années, on sait pas mal de quoi la voiture va avoir l'air, c'est-à-dire...
Ben oui, parce qu'on nous dévoile toujours des modèles 2024 alors qu'on est en 2020.
Exactement. Puis les tendances en ce moment, c'est quoi, Germain? C'est les maudits chars hybrides rechargeables. C'est-à-dire qu'on arrive avec des voitures à essence qu'on connaît bien. On met un petit moteur électrique qui ajoute jusqu'à 100, 150 chevaux, qui fait baisser la consommation d'essence. Puis on met juste assez de batterie pour avoir droit à un rabais gouvernemental de 3 000 $.
Cette formule-là me plaît bien, je te dirais, hybride rechargeable. Et je pense qu'elle convient à pas mal de consommateurs qui ne sont pas nécessairement prêts à faire le saut vers un véhicule qui serait 100% électrique.
Donc, en 2035, Germain, ça va être impossible d'être un gros dinosaure comme tu l'es, là, c'est-à-dire acheter une voiture neuve à essence. Là, dis les voitures.
Je n'ai jamais acheté de voiture neuve à essence.
Non, mais on ne pourra plus. Ça va être l'occasion. Et comme a dit la dame à LCN quand j'ai fait une chronique là-dessus, faisait qu'en 2034, je vais faire le plein de voitures à essence.
C'est ça. On va remplir nos garages de Chevrolet Malibu.
Oh mon Dieu, je pense même pas qu'ils vont rester une en 200. Fait que je m'attendais pas à 2034.
C'est un excellent point.
Donc, la voiture demain, on semblerait vraiment qu'elle va être 100% électrique, là. Fait que je pense que si tu devais me demander à quoi elle va ressembler, la voiture, dans 15 ans, oui, il va encore avoir, à mon avis, quelques hybrides rechargeables, peut-être plus dans les versions sportives des voitures, là, parce que, on va se le dire, c'est le fun des voitures électriques, mais côté performance brute, c'est très difficile d'accoter en ce moment des grosses cylindrées, là, comme des V10, des V12, même des V8, avec des gros turbos.
Mais en même temps, on arrive à produire des accélérations fulgurantes avec des voitures électriques.
Oui, oui, des lignes droites, ça va, là. Mais je parle de voitures capables, d'exemple, de faire le fameux speed du Nürburgring. En ce moment, tu sais, Porsche et Tesla ont beau mettre des voitures électriques sur le circuit, elles performent étonnamment bien, mais ce qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas capables de le faire plusieurs fois de suite, parce qu'une voiture électrique, ça chauffe beaucoup, comme une voiture essence, et surtout dans un contexte de course, et le refroidissement, c'est un enjeu. Tandis que, on regarde ce que Mercedes a réussi à faire avec la nouvelle AMG GT, la version de course là, qu'ils ont mis sur le Nürburgring, qui vient de battre le record.
Est-ce que tu pourrais répéter Nürburgring une autre fois, s'il te plaît?
Nürburgring.
Merci, c'est beau.
Nürburgring, Nordteichleffe. Je pense que c'est ça le nom en plus en allemand.
Oui.
Donc, la voiture du futur va être électrique. Avec un peu de sens, elle va réussir à se refroidir. Je te disais juste que pour les voitures de très haute performance, surtout si on veut une voiture capable de le répéter plusieurs fois, peut-être qu'il va toujours avoir des voitures hybrides. Mais regarde, Ferrari a dit qu'eux, ils comptaient faire des voitures essence pour toujours.
C'est drôle parce que je suis peut-être un peu moins radical dans ma vision du futur, parce que j'ai l'impression, et bon, ça va peut-être être une période de transition qui va s'étirer plus longtemps qu'on le croit, mais j'ai bien l'impression que l'automobile de demain, peut-être pas celle d'après-demain, mais que celle de demain, ben ça va être des voitures à essence, des voitures hybrides rechargeables, des électriques, peut-être même des hydrogènes.
L'hydrogène, c'est pas tant que...
Pas en grande majorité, non, mais ça va être une combinaison de tout ça.
Mais moi, je vais te le dire.
Parce que tout dépendant des besoins des consommateurs et des ressources présentes dans chaque pays, chaque région, ben ça varie énormément.
Moi, tu vois, je vais être honnête avec toi. Ça, c'est une des choses que je ne veux pas voir. C'est un peu ça le thème aussi de la chronique. C'est, ben moi, je veux pas voir une goutte d'hydrogène nulle part. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay?
Vas-y.
Parce que peut-être que dans les gros véhicules commerciaux, ça vaut la peine, mais l'hydrogène, ça ne règle absolument aucun problème parce que l'efficacité énergétique de l'hydrogène n'est tout simplement pas là. On dit souvent que la voiture électrique, son plus gros principal problème, nonobstant l'extraction des batteries qui est très polluante, là, c'est la provenance de l'électricité.
Ben voilà.
On dit, ah, l'hydrogène, c'est pas blabla, mais...
Ici, c'est vert, en fait, c'est bleu parce qu'on fait juste détourner des rivières et
tuer des animaux.
Des animaux, puis il y a plusieurs endroits en Amérique du Nord où ça l'est franchement moins.
Ben en fait, partout aux États-Unis où est-ce qu'on roule au charbon, ou comme dirait Trump, au charbon propre, je sais pas encore ce qu'il voulait dire par là, c'est quoi du clean coal, mais...
C'est du charbon nettoyé au bon ami.
Ouais, ça doit être ça, on brûle avec du monsieur net, là, ça élimine les émissions. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
La voiture électrique, ça peut être polluant dans la mesure où si on roule avec des sources d'énergie polluantes, on n'est pas avancé. Puis là, on dit souvent, ouais, mais l'hydrogène, le seul déchet, c'est l'eau, soit, OK? Oui, on fait pas d'électricité dans notre batterie. Cela dit, les cocos, là, pour faire l'hydrogène, là, ça pousse pas dans la nature à l'état brut. Il faut la créer. Okay? Et créer de l'hydrogène, ça coûte de l'électricité. Donc, si on calcule, en bout de ligne, la quantité d'électricité qui est nécessaire pour faire avancer une voiture hydrogène, on est deux fois moins rentable qu'une voiture électrique, à proprement parler. Donc, si, je ne sais pas, moi, je roule en Chine...
Donc, il n'y a pas de gain, là.
Non, parce que si je roule en Chine avec une voiture à hydrogène ou produire de l'électricité, c'est aussi polluant que rouler un véhicule avec un V6. En fait, c'est vrai que j'aimerais rouler un kilomètre avec une voiture électrique en Chine. C'est l'équivalent de rouler qu'un V6, par exemple, qui fait 10,8 litres aux 100 km. C'est polluant, là. Et produire de l'hydrogène, comme c'est très polluant, si on la produit localement en Chine, ça vaut pas la peine. La seule façon que je verrais l'hydrogène peut-être être efficace énergétiquement, c'est si elle était produite au Québec, mais encore une fois, et exportée. Tu sais, exemple, si on arrive à la... Mais ça, c'est pas faisable.
À mettre ça dans des petites boîtes, non, et mettre ça sur un paquebot.
Eh oui, c'est ça que je te dis. Je pense pas que l'hydrogène, c'est une solution. Peut-être que pour les grosses flottes commerciales qui font, tu sais, genre 100 km, 200 km par jour, peut-être, mais encore là...
Avec des trajets qui sont réguliers et récurrents.
Non, exactement, puis c'est tellement cher rouler à l'hydrogène. En ce moment, les voitures à l'hydrogène qui roulent, je pense à la Toyota Mirai et compagnie, souvent les quelques clients en Californie et certains marchés qui ont pu le tester se font fournir l'hydrogène, même qu'ils se font faire des pleins à domicile. Mais du moment qu'ils sortent de leur domicile et qu'ils se rendent justement dans d'autres états, je pense que c'est notre compétiteur américain, Mother Trend, qui avait eu justement une Toyota Mirai ou je sais plus, je pense que c'est un Tucson hydrogène, je suis plus certain, là. Il avait été dans un état voisin de la Californie où c'était pas inclus, justement, il avait dû payer pour un plein d'hydrogène, puis ça coûtait encore plus cher que rouler un F-150 à essence, rouler là.
Aïe, 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 il n'y a pas d'économie à
non,
faire.
Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, tu vas me dire, mais bon.
Le réalisateur nous pose une question à tous les deux, Marc-André, il nous demande, est-ce qu'il existe une autre source d'alimentation que l'électricité et l'hydrogène dans un avenir lointain?
Ça, c'est une très, très bonne question parce que l'hydrogène, il faut comprendre que c'est également une source électrique. Hein? On a un moteur électrique, sauf qu'au lieu d'être alimenté par une batterie, il est alimenté par une réaction chimique qui produit de l'électricité. Une voiture nucléaire, c'est à peu près la même chose. On a une pile nucléaire qui produit de l'électricité, qui fait avancer un moteur électrique. Le futur semble vraiment s'aligner vers la voiture électrique. Cela dit, il y a beaucoup de chercheurs qui font des progrès vers l'essence synthétique, c'est-à-dire une espèce de truc qui remplacerait de l'essence comme on connaît, qui irait dans un moteur, qui ferait des explosions, sauf qu'il libérerait pas de CO2, le maudit gaz polluant. Audi, notamment, travaillerait sur un type de carburant comme ça. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut produire ça en grande quantité sans être plus polluant qu'une voiture électrique ou qu'une voiture essence? Si oui, peut-être qu'il y a un bel avenir là, mais bon.
Ah, comment répondre à une question en posant une autre?
La question, en fait, c'est de savoir où est-ce que ça va être le plus rentable. Les compagnies capitalistes vont naturellement aller vers ce qui a le plus de sens économiquement. Je pense
l'argent mène le monde.
L'argent mène le monde et le monde mène l'argent, Germain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sur un autre volet, un truc que j'aimerais ne pas voir disparaître, c'est la fiabilité. Parce que j'ai l'impression qu'on... Quoi?
La fiabilité.
Oui.
Tu veux que les voitures restent fiables, autrement
dit. Exactement. Je pense qu'on a atteint un certain niveau de fiabilité.
Même les citrons sont plus si citrons que ça, en fait.
Mais les citrons demeurent des exceptions. Donc, j'aimerais ça qu'on conserve cette fiabilité-là, qu'on a acquise. C'était long, là.
Fait que toi, tu veux qu'en 2035, là, demain, les voitures restent fiables. C'est-à-dire que On s'attend raisonnablement.
Ça continue de partir en hiver, que les pannes, ben, finalement, soient des exceptions. Que, oui, donc finalement, qu'on puisse se fier à sa voiture comme on le fait aujourd'hui. Alors que, ben, si on remonte à l'époque des moteurs à carburateur, ben, c'était pas ce qu'il y avait de plus fiable.
Pour te donner une idée, quand j'étais à l'école des hautes études commerciales, là, au HEC, et j'étudiais l'administration, j'avais une professeure de sociologie d'entreprise qui était soviétique. Elle était née en URSS, c'était débile, OK? Et elle nous racontait qu'à l'époque, quand ils vendaient une voiture, il venait littéralement avec un coffre à outils et c'était entendu que tu savais comment. Ouais, ça, c'est une autre raison. Mon point, c'est que c'était entendu que cette petite voiture-là, tu devais savoir la réparer parce qu'elle allait briser. Et comme mon père, lui, il a eu plusieurs Chevrolet, c'était quoi, la Chevette, là, la petite entrée de gamme. Je savais que ça arrivait souvent qu'il y avait des pépins. Et c'est vrai qu'on a fait des bons géants. Même, je regarde aujourd'hui les marques les moins fiables sur le marché, Jaguar, Land Rover, Lincoln et compagnie. Ben, c'est rare que ça brise quand même. Mm-hmm. Et c'est juste qu'ils brisent plus que les modèles exceptionnels comme Mazda et Toyota. Donc, tu fais bien de le dire. On veut que ça reste, mais je crois que ça va rester.
Donc, oui, la technologie, oui, le progrès, oui, l'électricité.
Mais pas au nom de ça, oui.
Mais exactement. Pas au détriment de la fiabilité qu'on a durement acquise.
Mais je pense que ça va rester parce que, tu vois, une voiture électrique à la base, là, c'est pas mal plus fiable qu'une voiture à essence parce que...
Mais plus on va bourrer cette voiture-là de technologie, plus c'est ça qui va briser. Oui,
c'est ce qu'il y a autour le problème. Et moi, c'est
pas le cœur, le problème. C'est toute la carcasse aux alentours.
Mais tu vois, c'est ça que j'espère, c'est que les voitures restent simples. Quand on parlait de la voiture de demain, il y a peut-être 10 ans, on imaginait la voiture automatique qui était littéralement un pod, ni plus ni moins. On s'assoyait là-dedans, on disait « OK, amène-moi chez le barbier, amène-moi chez le poissonnier, peu importe. » C'est pour ceux qui font, mon Dieu, c'est deux trucs très nichés que je viens de nommer là.
Qui va chez le poissonnier?
Donc, c'est vrai que je suis un utopiste du plateau.
Ben oui, est-ce que tu vis à Saint-Lambert?
Ouais, là, mon poissonnier a un filet de sol ce soir pour souper. Non, amène-moi chez Costco. Donc, on s'assoit là-dedans, elle nous fait un milkshake, un massage, mais moi, j'espère que les voitures vont rester des objets qu'on conduit. C'est con, là, j'ai vraiment peur de l'avènement de la voiture autonome, parce que si un jour on arrive avec une vraie voiture, tu sais, des voitures qui se conduisent vraiment toutes seules, ça me surprendrait pas que pour éviter les accidents, les voitures manuelles, entre guillemets, soient confinées comme le sont les voitures anciennes aujourd'hui aux routes de 80 km/h et moins, et que les autoroutes soient réservées à l'élite qui veut pas conduire. Non, j'espère qu'on soit...
Et par l'autonomie d'une voiture, je crains aussi sa dépossession. Ouais. Donc, est-ce que ça va être un parc automobile qui va
appartenir... Locatif, littéralement, oui.
Qui va...
Locatif, comme tu dis.
Oui, exactement.
On appelle une voiture, elle vient nous chercher.
Personne ne va posséder une voiture, mais va plutôt avoir un abonnement.
Ouais.
Ou encore, tu sais, comme le service de transport en commun, ben, on va avoir des voitures communes.
Mais ça serait un désastre pour des gens comme ma conjointe qui sont tellement traîneux dans leur voiture. Quand je pense qu'honnêtement, sans blague, là, puis ça nous écoute, je t'aime mon amour, c'est pas ça le problème, là. Mais tu sais que, effectivement, tu sais beaucoup de choses.
On s'en reparlera dans le char.
Ouais. Elle laisse traîner, tu sais, elle se déplace avec son bagage, disons. Et ça, la voiture devait être dépossédée, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a une application, on pèse sur un bouton, notre petit pod électrique vient nous chercher, il nous amène à un coin. Ça sera plus pratique pour ça. Pour les gens allergiques comme moi, c'est pas pratique non plus. Moi, je suis très, 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 très allergique aux arachides. Et si le gars avant moi a mangé un gros sac d'M&M aux arachides dans l'auto puis qu'il n'a pas été décontaminé, ben, c'est très dangereux. Si j'ai besoin d'un véhicule adapté, hein.
Je te confirme que moi aussi, je ressens des allergies assez fortes, tout dépendant. Qui a essayé le véhicule avant moi?
Ouais, hein?
Et je ne dis pas ça parce que tu as deux chiens, mais je suis très allergique aux chiens et aux chats.
Mes chiens sont des pauvres allergènes.
Oui, mais c'est pas grave. Il me faut éternuer et renifler quand même.
C'est ce qu'on appelle une maladie psychologique.
Non, tes chiens, ils me font éternuer pareil.
Ils sont hypoallergènes, Germain.
J'ai des allergies pareilles.
Le pire, c'est que pour ceux qui nous écoutent, là, Germain a déjà eu une copine qui avait un chien qui perdait énormément de poils et auquel j'étais moi-même très allergique. Donc, je comprends pas comment il a fait pour stuffer ça.
Je l'aimais beaucoup et je me mouchais beaucoup.
Tu sais, Germain, j'ai beaucoup de gens qui me demandent pourquoi t'aimes l'automobile, Marc-André? Quelqu'un de si raffiné, quelqu'un qui est si cultivé. Pourquoi s'abaisser?
Je dirais pas ça, là.
À aimer un objet aussi bas de gamme. Et tu vois, moi,
pourquoi t'aimes pas le hockey comme les autres?
Ah, j'aime le hockey. Comment il s'appelle? Piqué Subban. Je suis un grand fan de lui. J'espère qu'il va avoir une belle saison à Montréal l'an prochain. Est-ce que ça recommence, les autres? Non, j'aime le hockey comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'automobile, c'est l'art et la science qui se rencontrent pour créer un objet.
Ils ont matché sur Tinder ou
quoi? Littéralement, ou Bumble, peu importe, ou Grindr. Je sais plus trop c'est quoi qui est à la mode ces temps-ci, là.
Ça dépend.
C'est Inge, hein, l'application que le monde utilise en ce moment, je pense.
Je ne saurais dire.
Parce que c'est ce qu'on me raconte, là. Moi, je suis plus là-dessus. Mon cœur est pris, malheureusement. Ou heureusement, c'est ça. Là. Et tu vois, c'est ça qui est beau, parce qu'une voiture, ça pourrait tellement être une Lada. C'est quelque chose qui t'amène du point A au point B, mais non. On a trouvé le moyen de mettre des artistes derrière ça, des carrosseries, mettre des gens qui passent un temps fou à rendre la chose intéressante, agréable, émotive, émotionnelle. Il faut que ça demeure
économique et aérodynamique.
Aussi,
non,
mais bon. Oui, on veut tout aller rechercher, mais regarde une Bentley, par exemple, là. Eux, ils s'en sacent bien raide de l'économie. Ce qu'ils veulent, c'est créer une voiture qui est un objet qui est
un objet de convoité.
Multisensoriel, que ouais. Tout, on le touche, ça touche. C'est agréable de toucher les surfaces sur cette voiture-là. Ça sent bon quand on rentre à l'intérieur. C'est tellement des objets qui dépassent.
Pas comme toi, là. On est à 2 mètres de distance, rassurez-vous.
Oui, c'est pour ça que Germain et moi, on peut pas se toucher, heureusement. Donc, je veux que la voiture, c'est ça que je veux que ma voiture de demain, là, elle reste un objet d'art, un objet de passion, un objet sentimental. Je veux pas que ça devienne juste des pods électriques comme des annonces déprimantes de Lexus, là, où ils disent, profitez-en en ce moment pendant que vous pouvez encore, puis on voit un gars qui s'ennuie de sa vieille RC qui est épouvantable à conduire, ça, tout en passant, et qui s'imagine ça dans un pod, là. Non, c'est vraiment pas ça que je veux. Et si on est vers ça, moi, je vais être un des extrémistes qui va continuer de rouler sa voiture à essence achetée en 2034 jusqu'à sa mort.
Toujours dans une optique peut-être plus réaliste, je suis pas prêt à sacrifier la visibilité. Et ça, c'est dans l'optique où on conserve une voiture qu'on conduit. Donc, la visibilité, si on n'a pas besoin de conduire, à part pour regarder le paysage, c'est inutile. Mais j'ai l'impression que dans les dernières décennies, on a perdu énormément de visibilité en bord des véhicules. La surface vitrée a été grandement diminué, évidemment pour des raisons de sécurité, parce que un panneau de tôle, c'est un peu plus résistant en cas d'accrochage que de la vitre, finalement. Anecdote, parce que tu le demandes, Marc-André.
J'ai demandé ça, moi?
Oui. Beaucoup de gens me demandent, comment tu fais pour stationner tes grosses guimbardes en ville? Non. Comment tu fais pour conduire ça?
Ça s'appelle une entrée de garage.
Non, mais c'est très simple. Si t'as déjà pris place à bord d'une vieille berline américaine, il y a juste ça, des châssis. La surface vitrée, elle est énorme. Donc, tu vois tout, finalement. Tu vois les quatre coins, tu vois tous les côtés.
Oui, en tournant la tête, tu vois bien, là.
Ben oui, et les piliers sont tout petits. Tout petit. Il n'y en a pas d'angle mort.
Et en cas d'accident, t'es l'heureux
vainqueur. Oui, voilà. Mais la visibilité était là.
Exactement. Mais regarde, par exemple, la voiture la plus laide de tous les temps, la Fiat Multiplia.
Oui.
Qui est d'une heure son nom. Googlez ça, là, Fiat Multiplia. Et c'était pas mal ça, hein, juste des fenêtres. Cette voiture-là, d'ailleurs. Là.
Oui.
Et tu as raison de dire qu'avec le style moderne que les voitures arborent fièrement maintenant, on est revenu vers des lignes plus... qui se rapproche plus des voitures concept, tu sais, comme tu dis, des petites fenêtres. Le Mazda CX-30, c'est le meilleur exemple.
On a l'impression d'être enfermé dans une grotte.
Et on voit rien. On voit rien. Dernièrement, j'ai essayé un BMW X5M, là, qui est quand même pas une voiture coupée, techniquement. C'est un gros VUS. Et là-dedans, j'ai de la misère à regarder les angles morts à cause que la manière que mon siège était placé. Les gros piliers A et les gros piliers B fait qu'on voit plus grand chose. Et si on essaie des voitures très sportives, tu parlais de Corvette, tu parlais de Ferrari.
Rien.
Ça, on voit plus grand chose. Et avec l'avènement des caméras, on pourrait être porté à croire que là, tu sais, on a des grosses fenêtres, des gros écrans, des grosses caméras.
Mais j'aime bien me fier à mes yeux, en plus aussi, des caméras 360.
Moi aussi, honnêtement. Puis tu sais, ils nous vendent des caméras qui sont recouvertes d'un revêtement anti-eau. Mais malgré tout, ça va pas une bonne paire d'yeux ou se virer la tête pour
voir.
Oui,
puis les caméras, il y a de la slush. Hein?
Honnêtement, au Québec, sérieusement, c'est pas fait pour ça, les caméras. C'est, ça fonctionne bien en été. Mais regarde, même à ce temps-ci de l'année, là, on va se le dire, il n'y a pas particulièrement beaucoup de neige, mais juste avec la petite neige qu'on a eu dimanche, puis les restantes qui continuent de fondre, les caméras sont toutes embrouillées. Puis ils n'ont jamais été capables de faire, même à part Volkswagen qui cache la caméra de recul littéralement en arrière du signe, là, le moindrement qu'une caméra est exposée, elle devient sale. Prenez Subaru, le meilleur système de sécurité en termes de prévision au monde, supposément. 3 fois sur 4 au Québec, il arrête de fonctionner aussitôt qu'il y a un peu de neige parce qu'il va vous dire caméra obstruée, senseur obstrué.
De glace d'accumuler dans la grille puis dans le pare-brise et hop, c'est fini.
Et je ne crois pas que demain, il va arrêter de faire mauvais ici, l'hiver. Donc
j'ai pas l'impression. On pourrait consulter Colette, mais j'ai bien l'impression qu'on en a pour quelques années à affronter l'hiver. Avec la visibilité vient quoi, Marc-André? Vient l'éclairage. Et tout comme avec la fiabilité, j'ai l'impression qu'on a atteint un certain niveau d'éclairage, finalement, des phares, au point où on éblouit les autres conducteurs sur la route. Mais je trouve ça important qu'on voit bien, par les fenêtres, mais aussi qu'on voit bien devant le véhicule grâce au phare. Et ben j'ai pas envie que ça disparaisse.
Tu ris, mais...
Non, je ris pas.
Dernièrement, j'ai essayé une Acura. Puis Acura, je sais pas pourquoi, là, leurs phares sont particulièrement forts.
Ouais.
Chaque fois que je croisais quelqu'un la nuit, il m'envoyait ses hautes. Ouais. Tu sais, comme on dit, enlève-les. Puis je suis comme, mais là, je suis pas sur les hautes, monsieur, ouais. Je m'excuse. Ben, tu serais contente parce qu'en ce moment, les compagnies allemandes, c'est souvent eux hein, qui amènent le plus de nouvelles technologies d'ailleurs dans leurs véhicules haut de gamme. Là. Ils travaillent beaucoup sur les phares au laser. Hein. Ça, c'est la mode en Allemagne depuis longtemps. Ça commence à arriver ici parce qu'aux États-Unis, on n'était pas friands de ça. C'est des genres de phares intelligents qui sont capables d'éclairer certaines zones selon ce qu'on fait. Et avec ça, on a une visibilité incroyable. Et tout porte à croire que la voiture de demain, même la Corolla, la Civic ou l'équivalent qu'on va avoir des phares encore mieux qui vont être capables de s'adapter aux conditions ambiantes.
Donc, on veut bien voir devant soi, mais toujours. On veut pas éblouir les autres conducteurs.
Non, mais c'est pour ça que si on a un phare qui est intelligent, il va être capable, exemple, s'il détecte une lumière au loin, d'orienter son éclairage plus vers le bas pour pas...
Mais déjà, les phares automatiques, avec les hautes automatiques, c'est un bon...
Existe depuis 50 ans.
Oui, mais ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien, mais...
Et je comprends pas que tous les véhicules n'en soient pas dotés.
Ben en fait, ça dépend, tu vis où là, tu sais, les hautes, t'as besoin de ça en région surtout. Nous dans nos belles rues démolies piétonnisées et villes cyclabilisées.
C'est sûr que sur le plateau, on n'en a pas besoin souvent là.
Non, mais regarde, je pense que avoir un phare qui est capable de s'adapter sans parler de haute ni de basse, qui est capable d'éclairer où est-ce qu'il y a le besoin. C'est exemple, la voiture détecte que, je sais pas moi, l'éclairage de rue est pas bon à certains endroits qui concentre plus l'éclairage dans certaines places.
Donc il s'adapterait en temps réel.
Oui, mais
wow.
Ça, je crois qu'on le veut, mais en même temps, je le veux pas parce que on parlait de fiabilité tantôt. C'est exactement le genre d'affaire que c'est cool quand ça marche. Puis la journée que ça marche pas, t'es dans le trouble.
Ouais, c'est sûr.
C'est comme les clés intelligents, là. Intelligentes, tu sais, les clés à puce, pardon. Ouais. Combien on se fait écrire, ma voiture a 5 ans, la batterie est morte, ça prend tout pour réussir à partir mon auto, mes portes débordent plus, blablabla. C'est compliqué, ce genre de gadget-là. Et tu sais, je donnais l'exemple souvent. Tu sais, BMW, comme je te disais, ont des phares au laser, OK?
Ouais.
Et ces phares-là chauffent beaucoup. OK? Au point où il faut que ces phares-là aient des mécanismes de refroidissement à air, sinon, ça peut causer un problème. J'ai vu une dame, là, chez BMW Laval, en allant chercher un véhicule de presse. Son phare a littéralement fondu parce que le mécanisme de refroidissement fonctionnait pas comme voulu, j'imagine. Là. Et il a fondu au point où ça avait endommagé une autre composante. Ça avait pris 2 mois que la madame s'est fait dire. Là.
Ça n'a pas dû coûter cher du tout.
Ça risque de coûter cher. Puis la pauvre dame, imagine-toi, elle avait une série 7, très belle voiture. Elle s'est fait dire, ouais, on va avoir besoin de 2 mois pour réparer votre voiture. En attendant, on va vous prêter une auto chez Enterprise. Elle a eu une belle Hyundai Sonata pendant 2 mois, alors qu'elle avait une belle série 7. En tout cas, mon point, c'est que tu vois quelque chose de haute technologie, on le veut. Mais en même temps, on veut que ça fonctionne.
On dit à l'oreille que sa Sonata, elle, n'a pas brisé.
La Sonata d'Enterprise, je sais pas dans quel état elle était, mais effectivement, c'est assez solide. Là. Donc, on veut des belles technologies, mais on veut des technologies qui fonctionnent. On veut pas des technologies qui fonctionnent pas.
Je pense que je ne pourrais mieux résumer. Merci de nous avoir endurés. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production
Cube Radio.